Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Peut-on guérir de la Shoah ? Ou plutôt, est-il possible d'identifier et de soulager, voire de dépasser les traumatismes des survivants et des descendants de victimes de la Shoah ? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans Mémoire vive. Pour répondre à cette question, nous recevons deux invités. Catherine Gransart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence de psychologie clinique à l'université Paris 8 et Nathalie Zage de Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également maître de conférence de psychologie clinique à l'université Paris 8. Et Nathalie Zage, la question qui va nous occuper aujourd'hui, elle nous vient du titre du livre que vous avez écrit en 2005, « Guérir de la Shoah », publié par les éditions Odile Jacob. Alors quel sens donnez-vous à cette question ? Peut-on guérir de la Shoah ? Question qui peut paraître un peu brutale, comme si la Shoah était une maladie dont on pouvait guérir.
Alors, en fait, oui, le titre est un peu, je n'ai pas envie de dire provocateur, mais enfin, ça a surpris. Moi, j'ai pensé qu'on a longtemps dit qu'on ne pouvait pas guérir des souffrances de la Shoah. Des victimes ne pouvaient pas dépasser, en fait, ce qui leur était arrivé. Et les enfants de survivants ne pouvaient pas surmonter les souffrances dont ils avaient hérité. Et on a confondu, je crois, un discours, moral avec... on a mêlé un discours moral à une position thérapeutique ou une position de professionnel qui ont pour charge...
Justement, d'essayer de soulager...
De soulager n'importe quelle souffrance. Et donc, en fait, c'est un titre, le choix du titre, c'est du point de vue du thérapeute. C'est-à-dire que nous, thérapeutes, c'est pas que nous sommes sûrs d'y réussir, mais nous nous donnons pour tâche de soigner ceux qui sont revenus de l'enfer et les enfants de ces gens qui souffrent. Alors, est-ce que nous réussissons ? C'est une autre affaire. Mais on ne peut pas, quand on les voit, on voit ces survivants, et quand on leur parle, et quand on les reçoit, et quand on voit les enfants des survivants, on ne peut pas leur dire « Oui, ce dont vous avez souffert, c'est incurable. » C'est une position qui n'est pas, j'ai envie de dire, c'est une non-assistance à personne en danger de penser des choses comme ça. Voilà.
Alors ce livre et vos recherches à toutes les deux, tout cela, en grande partie, vient d'une expérience singulière, et on va sans doute commencer par là, l'expérience des groupes de parole de victimes de la Shoah, expérience entamée au tout début des années 90. Comment sont-ils nés ces groupes de parole ? Peut-être d'abord vous, Nathalie Zage.
Alors, ces groupes de parole sont nés... on va dire que là, c'est une démarche de psychologie démocratique. Jusque dans les années 80, le peu de psychiatres, de psychanalystes, de psychologues dans le monde, en France, il y en avait très très peu, aux États-Unis, il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup, en Israël, dans l'Europe du Nord, qui s'occupaient des survivants de la Shoah, s'occupaient donc des survivants à la manière de la psychiatrie, de la psychanalyse classique, c'est-à-dire qu'avec les outils, je dis classique, c'est des super outils, mais enfin, des outils pour tout le monde, tout venant, quoi. Et puis, en ethnopsychiatrie, dans l'équipe du Centre Georges Devreux...
Donc, auquel vous appartenez toutes les deux.
Voilà, et que dirige aujourd'hui Catherine Gransart, on a pris une optique différente. On s'est dit, on va essayer de comprendre de quoi souffrent les survivants et les familles de survivants en leur donnant la parole. Et peut-être que c'est une fois qu'on aura compris avec eux quels sont leurs troubles, leurs souffrances, leurs besoins, leurs revendications, qu'on va construire avec eux les conditions de la guérison, justement. C'est-à-dire que, a priori, c'est incurable, mais peut-être qu'on s'y est mal pris, et peut-être qu'il faut prendre les choses autrement, c'est-à-dire véritablement avoir une démarche, c'est ça, démocratique. C'est le peuple qui dit ce dont il souffre, et c'est lui qui va trouver les moyens de sa guérison.
C'est-à-dire en renverser en quelque sorte une perspective qui était un peu en surplomb, mais qui avait été entamée quand même très tôt. Vous citez dans votre ouvrage les premiers travaux de Bruno Bettelheim dès 1943, qui se penche donc sur son expérience de la déportation.
Tout à fait. Oui. Non, ça a commencé très... Les psys se sont intéressés très très tôt. D'abord parce qu'il y avait des psychiatres et des psychanalystes qui étaient internés. Donc eux, ils se sont intéressés de fait à ce qu'ils vivaient en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là » On n'avait pas imaginé que des conditions aussi terribles pouvaient exister. exister et que des hommes pouvaient survivre dans de telles conditions. Je crois que c'est ça qui anime aussi toute la démarche et les travaux extraordinaires de Bettelheim, qui par ailleurs posent un certain nombre de problèmes, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
Alors Catherine Gransart, j'imagine que dans cette démarche, la première tâche à accomplir, c'est d'abord d'identifier des troubles ou d'identifier des symptômes.
Alors concrètement...
De mettre des mots scientifiques sur une souffrance exprimée ou non.
Oui et non, c'est-à-dire qu'on s'intéresse assez peu au diagnostic au sens psychologique du terme, c'est-à-dire en allant chercher dans notre savoir de psy, de quel trouble, comment on pourrait étiqueter les troubles dont souffrent les personnes qui viennent nous voir, en sachant qu'elles-mêmes parfois ont un long parcours thérapeutique et ont une parfaite connaissance de ces diagnostics-là.
Et du vocabulaire.
Et du vocabulaire. Et la particularité du travail qu'on met en place dans les groupes de parole, c'est justement d'essayer de mettre de côté les pensées psychologiques pour aller chercher dans d'autres types de pensées, et notamment les pratiques juives et les pensées juives, quelle solution on peut trouver, ou quelle compréhension on peut trouver, ou quel sens on peut trouver aux souffrances. Et comment, du coup, on va les formuler autrement.
Alors ça, c'est une démarche donc, qui appartient à l'ethnopsychiatrie. Alors qu'est-ce que l'ethnopsychiatrie, en la matière, permet que ne permet pas l'approche de la psychiatrie, de la psychologie traditionnelle?
Alors justement, c'est une approche qui s'intéresse aux attachements des personnes au sens d'attachement social, c'est-à-dire tout ce qui fait faire, tout ce qui nous fait faire, toute une série de choses et tout ce qui produit de l'appartenance. Donc la religion fait partie des attachements, les dieux, les langues, les manières de faire, les engagements politiques, toutes sortes de choses. Et donc en ethnopsychiatrie, on va considérer les problématiques des personnes à partir de ce type de choses. C'est-à-dire qu'on va passer, par exemple, beaucoup de temps à essayer de comprendre dans quel monde vivait la famille. Par exemple, dans le cas de la Shoah, on fait un entretien préalable avant la participation au groupe de parole, où on reconstitue avec la personne une sorte de... On essaie d'obtenir un récit chronologique à partir de ce qu'elle sait, avec le plus de précision possible sur les noms, les lieux, les métiers, le niveau de pratique, religieuse ou non, les engagements politiques, toutes ces choses-là, parce que ça nous semble être des données fondamentales pour comprendre ensuite les logiques de ce qui s'est passé, de comment les familles ont pu réagir ou non, qu'est-ce qui s'est passé dans telle communauté, et après la guerre aussi. Donc la démarche de l'ethnopsie est celle-là, c'est-à-dire de toujours penser les personnes reliées à des collectifs et reliées à des manières de faire et de penser.
Alors,
et de soigner surtout aussi.
Alors entrons dans le concret. Donc ça fait près de 20 ans hein, que ces groupes de parole existent. Hein. Les premiers se sont réunis en 1991. Donc ils se tenaient, en tout cas je crois tous les dimanches après-midi, des petits groupes, environ 8 personnes, une réunion qui dure environ 3 heures. Décrivez-nous peut-être, Catherine Zage, le déroulement d'un groupe de parole. Comment ça se passe?
Alors, effectivement...
Pardon, Nathalie Zage.
Non, mais c'est bien, Catherine Zage.
Voilà, je vous ai mixé toutes les deux.
Très bien, c'est comme ça qu'on va signer notre prochain livre, n'est-ce pas? Non, ça m'a bien plu, vraiment, je vous remercie beaucoup, Vincent. Voilà, donc concrètement, on réunit... en fait, on a pas inventé grand-chose au niveau du dispositif. Le fait de réunir des groupes de parole, c'est une fois par mois, le dimanche... Je le raconte dans le livre, au début on s'était dit que c'était le samedi, c'était pratique, personne travaillait le samedi, on était à la fac, hein, Paris 8, et c'était il y a longtemps, et puis en fait nous les thérapeutes et les psychologues, on est des chercheurs, on découvre en même temps les choses importantes pour les gens, et donc on avait commencé un samedi, on s'est rendu compte qu'il y avait un religieux qui disait moi je viendrais bien au groupe de parole, mes parents, mes grands-parents tous étaient déportés, il y a un survivant dans la famille, mais moi je suis devenu religieux, je suis devenu chômeur Shabbat. À l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire quand j'ai commencé. Maintenant, je sais bien. Et puis, on s'est dit, oui, samedi, faire un groupe de parole pour les survivants de la Shoah, même s'ils sont tous des communistes ou presque tous des agnostiques, ils viennent tous de familles chassidiques, orthodoxes à l'origine, et les petits-enfants redeviennent religieux. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très sympa, ce n'est pas ouvert. Donc, on a changé de jour, on fait ça le dimanche. Et on réunit dans ces groupes une huitaine de... à peu près 8 à 10 personnes. Des gens qui sont finalement qui viennent de partout. C'est-à-dire des gens de gauche, des gens de droite, des gens lettrés, des gens qui n'ont pas fait d'études, des malades.
Comment arrivent-ils vers vous ?
Ils arrivent parce qu'ils ont lu les livres, parce qu'on avait mis au tout début, on avait mis une annonce dans l'Arche. Tout début, on avait mis même, je me demande s'il n'y avait pas une annonce dans Libé aussi, à l'époque. Et puis maintenant, ils arrivent parce qu'ils savent, ils nous connaissent. Et puis, les gens qui participent à ces groupes nous ont lus. Ils sont comme vous, Vincent. Ils nous ont lus attentivement. D'ailleurs, je vous remercie. Ils nous ont lus, ils ont lu leurs résultats, ils nous lisent depuis pas mal d'années, ils voient l'évolution du travail et ils disent, chacun dit à sa manière, j'ai quelque chose à dire, je veux participer à la construction du savoir et aussi à la guérison, évidemment, à ma guérison, des troubles de moi en tant que survivant ou enfant caché ou enfant de survivant ou petit enfant aujourd'hui, hein, on a des petits enfants de survivants.
Donc à la troisième génération.
Troisième génération, avec des problèmes, des problématiques en fait, et des souffrances qui sont, je dois dire, depuis 20 ans, qui ont beaucoup évolué. Les questions qui se posent aujourd'hui dans les groupes de parole sont... Il y a des invariants. Il y a des invariants autour des souffrances, autour des morts. C'est quelque chose qui est récurrent, qui est la façon dont les juifs ont été exterminés en masse et la manière dont ils sont morts provoque systématiquement chez les survivants et les descendants de survivants des angoisses terribles quand ils se penchent en fait sur le souvenir ou quand ils imaginent la fin de ces gens et des familles. Mais sinon on a et donc ça nous devons le traiter absolument à chaque fois, chaque année dans chaque groupe. On doit s'occuper de ces morts. Mais sinon, on a des problématiques qui chaque année sont différentes et qui rejoignent beaucoup aussi les questions qu'on se pose autour de du devenir de l'identité juive aujourd'hui. Catherine Grandsart a donc écrit un livre sur les métisses judéo-chrétiens, les enfants des mariages mixtes, des gens aussi qui ont été cachés pendant la guerre et qui ont en quelque sorte continué à se cacher, non ? Et qui ont eu des enfants. Et toute la question de l'identité qu'on a voulu détruire dans le nazisme, au fond, elle est restée en suspens et elle est portée par des gens qui aujourd'hui disent « Bon, bah alors, ils viennent au groupe aussi pour ça », en se disant peut-être que nos souffrances de la Shoah, on a dû disparaître ou se cacher en tant que juif, on est moitié juif, moitié chrétien, en fait, on n'est plus grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi ? Et les groupes de parole, c'est des lieux où ce genre de question qui peut paraître soit anecdotique, journalistique, on va dire, enfin, pas des vraies questions de psycho, quoi. Soit des questions presque un peu folles, quoi, mais qui apparaissent pas comme ça dans le corpus de la psychologie et psychopatho normale. Eh bien, dans ces groupes, on dit si, c'est vrai, ça peut être une vraie question, ça peut être source de problèmes, et on peut aussi trouver des solutions à ces questions-là.
Alors, je retiens une expression de votre ouvrage, Nathalie. Vous dites, alors là, on est sans doute dans un vocabulaire qui appartient à celui de l'ethnopsychiatrie, je vais vous demander de nous l'expliquer. Vous dites, le groupe juif est l'élément perturbateur dans ces groupes de parole. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, le groupe juif est l'élément perturbateur dans ces groupes de parole, c'est parce que c'est des groupes qui ont été, donc, qui sont créés, qui ont lieu dans un cadre universitaire, donc un cadre universel, universitaire universel, d'un enseignement de la psychologie à l'université pour tous. Et donc, on disposait et on dispose, nous, les psychologues, Catherine Grandsart, moi-même, les gens qui animent, les professionnels, les enseignants-chercheurs qui animent ces groupes, nous, on dispose d'une matrice, d'un corpus de concepts qui appartiennent à l'univers de la psychologie. Et tout d'un coup, on dit, dans cet univers de la psychologie, donc on va accueillir des névrosés, des gens qui ont des problèmes avec leurs parents, des gens qui ont des problèmes oedipiens, des gens, etc. Enfin, des notions que vous connaissez bien, qui vous sont devenues presque naturelles. On va accueillir des gens en leur disant, mais on peut parler aussi de concepts, de notions qui ne sont pas universelles, qui sont tout aussi fortes, qui sont tout aussi puissantes en termes de rationalité et aussi de production de dispositifs thérapeutiques, mais qui appartiennent uniquement au monde juif. Et donc, à ce moment-là, on voit arriver au sein de ce dispositif de psychologie classique, animé par deux psychologues formés à la thérapie familiale, à la psychanalyse, enfin, tout ce que vous voulez, enfin, tout ce que vous connaissez, tout d'un coup, on voit arriver, des éléments qui sont étrange, qui nous perturbe, évidemment, le plus perturbant et que nous devons traiter dans ce cadre-là, c'est la divinité. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça peut paraître très bizarre parce qu'on n'est pas mystique du tout. Nous, on est des pragmatiques. Enfin, je veux dire, on cherche des solutions à des souffrances. Et ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, le travail qu'on a avec les survivants pendant très longtemps, les survivants communistes, marxistes, nous ont expliqué que Dieu n'existait pas. D'abord, ils en étaient convaincus pour ceux qui avaient été convertis au marxisme avant la Shoah, mais quand ils ont été dans la Shoah, ils sont sortis en disant, surtout quand ceux qui sont arrivés en France, par exemple, sont sortis en disant, on est communiste et c'est évident que nous, on a la preuve que Dieu n'existe pas, puisqu'on a vu ce qu'on a vu. Et puis quand on a gratté un petit peu et qu'on a discuté avec eux, on leur a fait dire des choses qui sont étranges. Par exemple, on leur a fait dire, mais alors dis-nous franchement, qu'est-ce que tu penses de Dieu dans cette affaire? Et là, à ce moment-là, ils se sont mis à dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous a fait? Pourquoi il nous a fait ça? Nous voulons lui faire un procès.
C'est une façon d'y croire.
C'est-à-dire, c'est pas qu'ils y croyaient plus, c'est pas qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, c'est que Dieu, là, est évidemment l'auteur derrière toute cette affaire. Évidemment, ce sont les Allemands, le nazisme, etc. Mais derrière toute cette affaire, n'importe quel juif polonais est persuadé, est convaincu que le problème, c'est la divinité et qu'il faut la convoquer, il faut faire un procès à Dieu. C'est en dernier ressort, c'est Dieu qu'il faut convoquer dans un tribunal et il faut lui dire alors, et nous, tous les survivants, on va être là, on va le regarder et on va lui dire alors, mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Éventuellement, le condamner d'une certaine manière. Bon, mais ça, pour nous, les psychologues, c'est très perturbant, on va dire. Et puis, en même temps, si on s'intéresse au judaïsme, à l'histoire des juifs, à la tradition juive chassidique Lubavitch en Pologne, on s'aperçoit que cet énoncé-là, cette proposition, elle n'est absolument pas originale au sens où elle a déjà eu lieu. Sauf qu'en France aujourd'hui, en psychologie à l'université, ça peut paraître quelque chose de très très étrange. Donc ça veut dire que notre discipline, la psychologie d'aujourd'hui, doit, après la Shoah, réinventer des modalités de comprendre
et elle aussi
des propositions.
Renouer des fils, elle aussi, en tant que discipline universitaire.
Oui, ou en tout cas s'adapter à des données qui nous surprennent complètement. On n'a pas appris à gérer ces questions-là en psycho.
Alors Catherine Gransard, j'extrais donc un très court extrait d'un témoignage donc, que j'ai lu dans cet ouvrage signé de Nathalie Zage, de Guérir de la Shoah, donc publié chez Odile Jacob. C'est un entretien donc avec Myriam Trottmann, réalisé je crois en 1993. Voilà ce qu'elle dit. « Ici, je ne vis pas ma vie. Je suis à côté de moi-même. Ma vie est ailleurs, mon esprit est ailleurs. » Est-ce que ce type de parole, donc proférée dans le cadre des groupes de parole, c'est quelque chose qui revient souvent? Vous avez vous-même dirigé ces groupes. Ce type de cette expression d'un sentiment de ne pas vivre sa vie.
C'est très très fréquent. C'est-à-dire que souvent les personnes qui viennent, qui veulent participer au groupe et qui participent au groupe, ont un sentiment d'avoir des souffrances pour des raisons pratiquement illégitimes. C'est-à-dire que de dire « moi, j'ai rien vécu, moi, j'ai pas eu ça, moi, je suis née après », notamment, enfin, en particulier les descendants, évidemment. Ils disent « moi, je sais pas d'où, pourquoi, depuis que je suis petite, je fais des cauchemars, ou quand je vois des cheminées d'usine, j'ai peur », des choses comme ça. Et en même temps, avec cette idée, mais comment c'est possible? Et en même temps, la sensation qu'il y a que ça qui compte, c'est-à-dire que et qu'ils ont une demande, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens viennent dans ces groupes, ils ont une demande aussi d'être que leur souffrance soit validée et reconnue comme étant légitime parce que ils ont souvent aussi entendu de la génération précédente ou de leurs parents qui ont eux vécu les choses en direct. Par exemple, c'est pourquoi tu souffres, toi t'as rien vécu. Donc ils sont
avec en plus une culpabilité. Donc
voilà. Donc il y a souvent cette interrogation de dire mais comment ça se fait que je suis prise par ces choses-là ou pris par ces choses-là alors que objectivement j'ai pas traversé cette période moi-même.
Alors, Nathalie Zajd, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que les conditions, donc évidemment de la disparition lors de la Shoah, c'est-à-dire des morts sans sépulture, et donc l'importance des rituels du deuil qui n'a pas pu être fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans ces groupes de parole.
Ah oui, ça c'est un invariant absolument. C'est-à-dire que depuis, on a commencé il y a à peu près, c'est ça, une vingtaine d'années, et si les thématiques avancent, si les jeunes d'aujourd'hui ne ressemblent pas du tout à ceux qu'on recevait il y a 20 ans, il y a cette question de la mort et de la façon dont les parents et les grands-parents sont morts et les familles entières sont mortes. Et c'est quelque chose d'insupportable qui reste terrifiant. Et que nous avons, qui apparaît, c'est-à-dire on voit dans chaque année, dans chaque groupe de parole, les participants se mettent à s'écrouler à un moment donné, à se mettre à pleurer, quoi. Et c'est quelque chose qui est terrible. On voit que là, il y a une souffrance terrible qui est partagée par l'ensemble des personnes et qui devient à un moment donné tellement insupportable que justement les participants chaque année décident qu'on ne peut pas rester comme ça. En suspens, comme possédé, j'ai envie de dire, par ces morts-là, morts dans ces conditions-là, et qu'il faut véritablement faire quelque chose. Et c'est un des moments de revitalisation des individus. C'est un groupe, c'est toujours en collectif, c'est ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire on n'invente pas des rituels de deuil.
Si je peux rajouter quelque chose, d'un côté, il y a les morts de la Shoah qui sont là et qui font, par exemple, pleurer. Et des gens disent, je ne sais pas pourquoi je pleure pour des gens que
j'ai
jamais
connus. Ils sont là, mais c'est l'absence qui pèse.
Voilà, mais on rencontre des personnes qui disent, je pleure des gens que j'ai jamais connus, alors que ceux que j'ai connus qui sont décédés, bah, je suis moins triste, par exemple. Mais il y a une deuxième chose qu'on a pu observer au fil des années, c'est que la perspective de la disparition du parent ou des parents survivants ou le décès effectif d'un parent survivant, ça peut aussi être insurmontable, vécu comme quelque chose de absolument inenvisageable et insupportable. Et ça aussi, on va beaucoup travailler là-dessus, autour de ce que disait Nathalie, c'est-à-dire en allant chercher dans les rituels juifs.
Alors, 20 ans d'expérience de ces groupes de parole, quelles sont justement les principales évolutions et qu'est-ce qui se dit qui n'était pas apparu au début de l'aventure? Qu'est-ce qui se dit dans les années 2000 autour de ces questions?
Alors, moi, ce que j'ai surtout remarqué comme évolution, c'est l'apparition dans les années 80, de mon souvenir, hein, Nathalie, tu complètes, mais dans les années 90, il pouvait y avoir une crainte par rapport à la montée de l'extrême droite, des choses comme ça. Mais là, à partir des années 2000 et de la seconde intifada, j'ai vraiment vu une évolution. Et la peur d'être victime aujourd'hui en France est devenue quelque chose de très présent dans les groupes. C'est-à-dire, certains arrivaient, j'ai fait ma valise au cas où, avec quelque chose, une sorte d'insécurité. En plus, nous, on faisait notre groupe à Paris 8, donc avec aussi cette dimension à Saint-Denis, d'être un petit peu effrayé par un sentiment de menace qui, auparavant, pouvait être facilement expliqué comme quelque chose d'hérité, alors que là, c'était vraiment quelque chose de direct.
Et dans l'aujourd'hui.
Et alors, là, on a, très franchement, depuis 2 ans, on a suspendu le groupe en attendant de pouvoir le mettre en place parce qu'on se réorganise. Dans le dernier groupe, je dirais, qui s'est terminé en 2008, on a eu pour la première fois, je dirais, un écart de génération qu'on n'avait jamais eu jusque-là. C'est-à-dire, la personne la plus âgée avait vécu en direct la nuit de cristal et s'en souvenait très très bien, puisqu'elle avait 12 ans à l'époque. Et la plus jeune avait 20 ans, était donc née bien, bien, bien après. Au départ, elle se disait l'une comme l'autre, mais qu'est-ce que je vais venir faire dans ce groupe où vraiment je suis la seule à souffrir de ce dont je souffre. Et très rapidement, elles ont trouvé leur place au même titre que tous les autres. Et donc, je dirais qu'il y a à la fois une évolution dans la manière dont les choses se posent, c'est-à-dire que les troisièmes générations se sentent encore plus interrogatives sur leur légitimité à se sentir, à avoir des souffrances liées à la Shoah. Et en même temps, quand on les réunit, quand on réunit des gens qui sont, elle avait, c'était entre 20 et 80 ans, l'écart d'âge, on assiste quand même à cette chose très étonnante de voir que très rapidement, il y a des points communs qui surgissent et que les participants ensuite développent des liens qui sont très profonds, alors qu'a priori, ils n'ont pas grand-chose en commun.
Catherine Gransard, je vous remercie. Nathalie Zage, je vous remercie. Et je vous laisse les mots de la fin, mais que je tire de votre ouvrage « Guérir de la Shoah », donc publié chez Odile Jacob. Je vous cite donc Nathalie Zage. « L'expérience de soins psychologiques avec les survivants et descendants de victimes de la Shoah m'a appris que lorsque la guérison s'accompagne du sentiment d'être fidèle à ses origines, elle se révèle plus durable et plus joyeuse. » C'était « Mémoire vive ». Une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver sur internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, www.fondationshoah.org, et enfin le site de l'émission avec toutes nos archives, www.mémoirevive.net.